C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, parlons de l'implantation du nouveau système informatique, la nouvelle application de la Société d'assurance automobile du Québec. Depuis lundi, on peut comprendre les périodes de maintenance, d'ajustement, mais vous êtes nombreux à vous plaindre. D'abord, des difficultés d'accès, de transactions impossibles à compléter, de rendez-vous qu'on ne peut pas prendre, des gens qui se présentent dans les succursales qui se font virer de bord, puis des employés qui nous disent vivre dans le néant, de vivre avec peu d'informations. Dave Leclerc est vice-président donc aux stratégies de marketing et de sécurité routière à la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Leclerc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, en un mot, là, on comprend qu'il y a des ajustements, là, mais on ne peut pas dire que c'est un gros succès cette semaine, là.
Ben écoutez, je le dirai en deux temps. Début de semaine difficile, particulièrement mardi. On s'est parlé, je pense, mardi matin. Tout roulait rondement mardi matin jusqu'à 10 heures. Mais par la suite, bon, on a eu des problèmes techniques importants. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Depuis mercredi, hier aussi, on a eu des bonnes journées, plus de transactions. Depuis lundi, là, pour vous donner un horizon à peu près de transactions, on est à 330 000 transactions effectuées, peu importe le canal. Donc, que ce soit dans les centres de services, les mandataires, les commerçants ou encore sur le web. Pour ce qui est de notre plateforme web, autrement dit, ça clique, c'est plus de 200 000 consultations qui ont été faites cette semaine. Donc, je vous dirais que la fin de la semaine se déroule un peu mieux. Mais évidemment, vous comprenez que les clients ont eu beaucoup de difficultés et on le comprend. On a travaillé très fort. Les gens ont travaillé 24 heures par jour pour tenter d'ajuster les choses côté informatique.
OK, mais je comprends, vous pouvez m'inonder de chiffres là, sur le nombre de transactions, mais je veux vérifier avec vous un certain nombre de détails. Allez. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, par exemple, de paiement, c'est-à-dire des gens qui ont voulu faire des transactions puis ça n'a pas fonctionné?
Oui, on a eu des problèmes, entre autres, avec ce qu'on appelle les machines de paiement, entre autres, dans les centres de services. Il y a eu une mise à jour qui était faite dans la nuit de lundi à mardi, je me souviens bien, et c'est mardi qu'on a constaté des problèmes de paiement. Parce que les communications avec la centrale étaient affectées en raison des mises à jour qui avaient été faites dans la nuit.
Est-ce que c'est vrai que pour les commerçants, ce qu'on appelle le fameux transit, au lieu de durer 10 oui. jours, on le donne pour 20 jours?
Bien, on essaie de donner deux transits, hein, si c'est possible, parce que si, par exemple, puis je vais vous donner un exemple concret de problème qu'on est en train de résoudre, certains commerçants ont de la difficulté à imprimer la plaque provisoire. Autrement dit, maintenant, on ne donne plus de plaque dans les commerçants, on imprime une plaque provisoire pour remplacer le transit. Certains commerçants ont eu des difficultés, on est en train de résoudre le problème. Oui, parfois, on va donner deux transits pour éviter aux clients de se faire intercepter par les policiers.
Est-ce que c'est vrai si j'appelle sur votre système téléphonique après un certain nombre de coups, de temps de mise en attente, là, vous allez me raccrocher au nez?
Ça peut encore arriver, puis on en est vraiment désolé. Je vais vous donner une idée de grandeur d'appels qu'on a eu lundi, 60 000 appels. Hier, on était à 30 000. Notre capacité est à 8 000 par jour. Donc, c'est certain que parfois, le système n'est pas capable de prendre l'affluence au téléphone. On essaie de gérer ça de façon dynamique pour permettre au maximum de gens d'avoir l'information téléphonique. Mais on sait qu'il y a plusieurs personnes qui tentent d'appeler plusieurs fois, ce qui embourbe les lignes. Et oui, ça pourrait arriver que les gens se fassent raccrocher au nez. On en est vraiment désolé.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait jusqu'à 2 heures d'attente à l'extérieur, en plein hiver, par temps froid, devant les succursales et qui se sont fait dire « retournez chez vous »
2 heures, ça serait surprenant, mais je peux pas dire, évidemment, si vous avez des témoignages, possiblement. Mais l'idée étant que nos employés et les mandataires font ce qu'on appelle un accueil dynamique. Je suis ce matin au bureau de Amel à Québec et déjà des employés sont à l'extérieur pour accueillir les clients, pour dire cette transaction-là, allez la faire en ligne, par exemple, ou votre institution financière pour éviter d'attendre. Donc, on essaie de répondre rapidement aux clients lorsqu'ils arrivent en point de service.
Est-ce que c'est vrai que si je prends un rendez-vous actuellement, ça me mène possiblement début avril, puis peut-être même du mois de mai?
Ça dépend probablement aussi du service et de la région dans laquelle vous vous trouvez. On a 43 centres de services, plusieurs mandataires, près d'une centaine. Donc, ça peut varier d'une région à l'autre. Oui, c'est possible que certains rendez-vous soient rendus en avril, mais on ajoute des rendez-vous. Là, ce que je vais vous dire, c'est important, par contre, pour éviter d'embourber la ligne téléphonique, on conseille fortement à nos clients d'aller voir sur le web. De toute façon, si vous essayez de magasiner un rendez-vous au téléphone, c'est la même grille de rendez-vous qui se trouve au téléphone pour nos employés que celle qui se trouve sur le site web.
OK. Si je résume, là, vous avez stoppé la plupart de vos activités pour implanter le nouveau système pendant 4 semaines.
Oui, exactement 14 jours ouvrables.
Là. OK, mais j'espère qu'on a travaillé les fins de semaine pour l'implanter le plus rapidement possible, non?
Oui, vous comprenez que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour faire à peu près 15 000 étapes, M. Barthien.
Je comprends, mais on peut embaucher du personnel supplémentaire. Quand on fait une transition majeure puis qu'on offre un service de base aux citoyens, ouais. J'espère qu'on ne fait pas du 9 à 5.
Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a plusieurs centres de services qui ont fermé aux alentours de 18h, 19h cette semaine. J'ai aussi des centres de services qui vont fermer un peu plus tard aujourd'hui. Des mandataires qui ont travaillé hier soir, qui travaillent samedi. On a un centre de service, par exemple, à Saguenay, qui a donné des rendez-vous à ses clients pour samedi. Donc, on essaie de faire le maximum. Il faut bien comprendre qu'on avait déjà ajouté des gens pour maximiser l'effort humain, justement, dans les centres de service. Mais pour nos transactions, vous comprendrez que quelqu'un qui est embauché, c'est à peu près 6 mois de formation. Donc, on avait déjà augmenté notre charge.
Je comprends, monsieur, là. Monsieur Leclerc, c'est 6 mois de formation, mais ça fait des années que vous planifiez l'implantation du nouveau système, là.
Oui, on avait ajouté des gens.
C'est pas une panne, c'est pas une crise. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, vous m'avez parlé tantôt de la capacité du système téléphonique. Vous m'avez dit, c'est combien d'appels?
C'est 8000 appels qu'on est capable de prendre par jour, puis on en a reçu 60 000 lundi.
Avant l'implantation du système, cette capacité d'appel était de combien?
Oh, on est aux alentours de peut-être 5000, 3500. Ça dépendait des journées. Il y a des journées où on a moins de préposés au téléphone. Là, on roule à peu près entre 200 et 250 préposés au téléphone par jour.
OK, mais aviez-vous anticipé que ça pouvait dépasser 8000 appels par jour? Puis qu'est-ce que vous avez fait pour être capable de prendre plus que 8000 appels par jour?
Bien, on a augmenté notre force de frappe. Évidemment, au téléphone, comme je vous dis, généralement, on est à 150. On est rendu à 200, 250 parfois par jour. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de communication pour inciter les clients à faire leurs transactions en ligne, la faire à la devancer la transaction, ne pas se présenter. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a des gens qui se sont déplacés encore en centre de service hier pour une photo pour leur carte d'assurance maladie, mais qui est due en mai. Alors, ce qu'on suggère aux gens, déplacez-vous pas aujourd'hui pour mai, venez un peu plus tard, 15 jours avant votre date d'échéance. Ça va aider. Ça fait qu'on y va aussi par communication pour supporter les équipes et les équipes supplémentaires qu'on a achetées.
OK. Vous vous donnez une note de combien sur 10?
Sur 10 cette semaine, je vous dirais qu'en début de semaine, peut-être 4, 5. Mais je vous dirais que hier, là, je vous dirais peut-être à 6,5. Mais certainement, je vais donner un 8 et un 9 à nos employés. Ça démène vraiment pour répondre aux clients qui parfois sont pas toujours faciles. Là. Je comprends les clients qui vivent des moments difficiles, peut-être d'attente, etc. Mais nos employés ont trouvé la semaine aussi très difficile et ils font tout pour servir les clients le plus rapidement possible et en servir le plus possible.
Savez-vous ce qu'ils me disent, vos employés? Ils m'écrivent ça, là. Puis pas un, plusieurs. Que depuis quelques années à la Société d'assurance automobile, on a multiplié les différents paliers de petits boss. Qu'il y a une multiplication d'intermédiaires, de gens qui ne sont pas terrains dans les succursales et qui font justement que le système ou le service n'est pas à la hauteur. Moi, là, beaucoup de vos employés se sont sentis dans le néant et abandonnés cette semaine.
Je dois vous dire que je ne veux pas commenter les commentaires de nos propres employés, évidemment, vous comprendrez, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le nombre d'employés n'a jamais été aussi élevé en service client à la société en 2023 qu'il l'a été auparavant. Pour le support de nos employés, dans chaque centre de service, on a ce qu'on appelle des super utilisateurs pour supporter nos employés. Et par la suite, il y a un deuxième niveau de soutien, évidemment, téléphonique pour aider les employés à réaliser les transactions. Chaque employé a été formé, mais évidemment, il y a une courbe d'apprentissage et c'est tout à fait normal. Et je comprends que certains employés soient découragés cette semaine, mais on les supporte et on les aide, justement, à franchir cette étape-là lorsque ça va être plus fluide, évidemment. On le souhaite rapidement.
OK. Merci, M. Leclerc. Bonne journée.
Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Eh bien, demain, ça fera un an exactement que la Russie a envahi l'Ukraine, donc déclaré la guerre. Et depuis un an, on voit la situation évoluer. Malheureusement, en tout cas, jusqu'à maintenant, tout indique que c'est une guerre qui va se prolonger. On a vu cette semaine le président Poutine parler et faire sa propagande en disant que c'était une agression de l'Ouest, que Moscou avait répondu et qu'il avait l'intention de poursuivre les hostilités. Le président Biden qui réaffirme son soutien aux Ukrainiens. Mais ce matin, prenons du temps pour voir un peu comment la situation évolue en Ukraine, comment les Ukrainiens ont changé depuis un an de guerre. Tetiana Ogarkova est avec nous. On lui parle régulièrement, elle est responsable du département international de Ukraine Crisis Media Center. Elle est en direct ce matin de la capitale Kyiv. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Ben, d'abord, nous dire justement comment les Ukrainiens, comment vous, vous avez changé, comment vos compatriotes ont changé depuis un an.
Oui, c'est vrai que la société ukrainienne a vécu des transformations dramatiques durant cette année-là. C'était une année d'épreuves. Selon ce que nous disent les sondages et ce que constate aussi sur place, les gens gardent le moral assez haut. 90%, voire plus 95% sont convaincus que la victoire sera ukrainienne. Beaucoup de gens disent que le sentiment majeur quand on pense à ce qui l'Ukraine, ce que être ukrainien déjà, c'est la fierté, c'est le sentiment qui n'était pas du tout là il y a une année, il y a deux ans. Donc les Ukrainiens sont fiers d'être ukrainiens. Beaucoup plus se considèrent européens cette année. Le score est 86% des Ukrainiens s'identifient avec l'Europe. Et donc les mêmes chiffres à peu près sont donnés pour les Ukrainiens veulent rejoindre l'Union européenne et aussi l'OTAN. Les chiffres, surtout pour l'OTAN, qu'on n'a jamais vu dans les décennies précédentes. Donc la guerre avait tout bouleversé et donc les gens restent mobilisés malgré les situations qui s'améliorent de temps en temps, mais qui reste une situation très très dangereuse puisqu'il y a des frappes par missile après les gens qui vivent à côté de la ligne de front et risquent leur vie tous les jours en fait. Aujourd'hui c'était à Kharkiv, avant c'était à Kherson, donc il y a des frappes, ça peut arriver aussi jusqu'à Kiev ou autre ville. Mais étant donné on réalise que en fait un an plus tard, un an après cette grande invasion russe, l'Ukraine l'est toujours, elle résiste, voilà, elle continue ce combat et que on n'est pas occupé, ça c'est bien sûr, on n'a pas encore gagné toutes les batailles, le chemin malheureusement sera encore long. Il y a des choses qui nous attendent devant, mais globalement, on a tenu le coup et bien sûr, ceci est aussi grâce à cette solidarité internationale qui est autour de nous. Et donc, on sent aussi qu'il y ait de plus en plus de aides qui viennent, des aides militaires absolument nécessaires, financières, économiques, diplomatiques aussi. Tout ceci renforce le sentiment qu'on n'est pas seul et que tous ensemble, on pourra finalement vaincre ce mal qui est la Russie.
On se souvient, il y a un an, tous ces Ukrainiens, notamment des personnes âgées, des femmes, des enfants qui ont quitté par train, qui ont quitté par voiture, qui ont même quitté à pied. Est-ce que la population qui a beaucoup voyagé depuis un an finit par se stabiliser? Est-ce que les gens reviennent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Oui, la situation est assez complexe. Il y a un nombre de gens qui sont partis dans les premières semaines et mois de la guerre et se sont installés à l'extérieur depuis, dans les pays européens. Il y a ceux qui sont partis au Canada, aussi aux États-Unis. Et il y a d'autres qui vont faire un retour, en été 2022, il y avait beaucoup de retours. Après que la Russie avait commencé cette guerre énergétique, c'est-à-dire qu'elle avait commencé à frapper nos installations électriques, il y avait beaucoup moins de retours. Parce que le pays est carrément plongé dans le noir, il n'y avait pas d'électricité, ça avait des conséquences négatives pour chauffage aussi, pour connexion, tout cela. Il y avait beaucoup moins de retours. Après, des familles, quand les enfants sont scolarisés, normalement, c'est mois de septembre, normalement, ils restent une année entière. Donc, même si la situation le permet ici, par exemple, leur maison n'est pas détruite, ils restent quand même dans l'endroit où ils ont déjà entamé l'année scolaire. Mais nous avons vu plusieurs amis retourner dans leur ville et village, et notamment aussi à Irpin, par exemple, à Boutcha, à côté de Kiev, là, des endroits qui sont tristement célèbres aujourd'hui parce que il y avait ce massacre de Boutcha, il y avait plusieurs centaines de civils qui ont perdu leur vie. Donc tout ceci est très complexe. Je pense que le bilan officiel, donc il faut que le temps passe pour voir est-ce que tout le monde va revenir ou quand même il y aura un nombre d'Ukrainiens qui vont quand même rester à l'étranger. Tout ceci dépend beaucoup de l'issue de la guerre, de la situation économique aussi, parce que c'est vrai que d'après les statistiques que je vous cite, deux tiers des Ukrainiens témoignent que leurs revenus ont baissé considérablement avec le début de cette guerre, bien sûr. Et donc tout ceci sera à prendre en compte, mais c'est très tôt d'en juger. Parce que c'est pas définitif et tout va dépendre de la durée de la guerre et des conséquences et de souffrances en fait pour l'économie, y compris pour l'économie, pour voir combien de gens vont finalement retourner en Ukraine. Bien sûr, on nous souhaite que la majorité des Ukrainiens retournent ici parce qu'il y aura, la victoire, il y aura beaucoup de travail ici.
Comment se passe le quotidien dans un pays en guerre? Est-ce qu'on arrive à je dirais, vaquer à ses occupations quotidiennes, à avoir une certaine vie malgré les craintes, vous le disiez tantôt, de bombardements, et ça dure depuis un an maintenant. Est-ce qu'on arrive à avoir une certaine vie?
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, je peux témoigner pour Kyiv et pour d'autres régions aussi, parce qu'on a beaucoup voyagé. Depuis un peu plus d'une semaine, on a la vie quasi normale, puisque les coupures d'électricité sont terminées. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on a l'électricité comme avant la guerre. Tout fonctionne. Je veux dire, les commerces, tout, voilà, les services publics, les écoles, tout fonctionne comme avant. Bien sûr, sauf, voilà, il y a une, cette différence avec les alertes aériennes qui perturbent, bien sûr, parce que tout de suite, les services publics ferment, les écoles, voilà, les enfants descendent dans les sous-sols, tout ceci, ça fait manquer des cours, ça fait manquer des activités. Mais à part cela, voilà, après cette épreuve qui avait duré 4 mois pile, de 10 octobre jusqu'à environ 10 février, et donc on avait vraiment des graves problèmes d'électricité, à peu près 50% sans électricité, donc c'est chauffage, eau potable, donc tout ceci était affecté là. Maintenant, voilà, c'était un miracle. Après les travaux de réparation, tout y est, il n'y a pas de problème. D'après les témoignages qu'on reçoit des d'autres régions, cette situation est partout, vraiment partout dans le pays, sauf une petite exception pour la région d'Odessa, qui était frappée d'une manière peut-être plus cruelle. Et donc là, ils ont quand même des coupures actuellement, mais il y a des travaux qui sont en cours. On espère qu'ils vont arriver aussi à avoir, voilà, l'électricité. Ça remonte le moral, puisque ça prouve qu'il y a, voilà, il y a cette capacité de restaurer tout ce qui était détruit. Et pour des villes qui sont éloignées de la ligne de front, comme Kyiv, donc n'importe quelle ville à la distance supérieure à 40 kilomètres. 40 kilomètres, c'est la distance de artillerie russe. Donc là, c'est une ville où il y a bien sûr le risque de missiles, mais à part cela, on a une vie correcte, il y a pas de problème à rien, il y a tout. Par contre, les villes qui sont à côté de la ligne du front, qu'il s'agit de Kharkiv, Kherson, les villes à Donbass, telles Kramatorsk, Slaviansk, etc. Là, par contre, la situation est beaucoup pire parce que les bombardements par artillerie, ils font beaucoup de blessés et aussi des morts. Et c'est vraiment sur la base quotidienne. Et donc là, c'est vrai que voilà, c'est une situation toute différente, en fait, puisque les conditions de sécurité n'y sont plus, les enfants ne vont pas à l'école, c'est impossible, donc les gens risquent leur vie d'y rester, et pourtant plusieurs restent dans ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est surtout les villes qui sont à côté de la ligne du front qui souffrent. Nous, pour l'instant, avec voilà toutes les épreuves que nous avons eues, nous sommes vraiment très heureux de retrouver une certaine normalité de la vie quotidienne. Ça n'empêche qu'il y a bien sûr toujours des inquiétudes pour la guerre. On lit des actualités, on s'intéresse, etc. On est tous mobilisés à continuer à aider notre armée et les civils qui ont souffert. Mais voilà, étant donné que c'est une normalité incroyable pendant la guerre.
Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous. Bon courage, Tatiana. Merci encore une fois.
Merci beaucoup, Paul.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On se souvient tous de l'étude qui avait été présentée par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances au sujet de la consommation d'alcool. J'en parle ce matin avec Dr Martin Junot, qui est cardiologue et directeur de l'Observatoire de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, prof également à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr Junot, bonjour.
Bonjour.
Là, vous avez revu un peu l'étude. Quelle est votre conclusion quand vous regardez ça? Est-ce qu'on a affaire à une étude, j'allais dire, solide sur le plan scientifique ou si ça cache autre chose?
Écoutez, ben, je vous dirais que c'est pas une étude d'abord, hein, c'est un rapport. Les auteurs ont regardé toute la littérature et tirent leurs propres conclusions. Ils ont regardé à peu près 5000 études, mais en ont retenu à peu près 16. Alors, vous voyez déjà là, c'est facile d'avoir un biais là, quand on élimine autant. C'est normal de faire ça, mais nous, notre travail, c'est de regarder qu'est-ce qui a été inclus, qu'est-ce qui a été exclu. Alors, c'est sûr qu'ils avaient un biais préalable, qu'ils ont sélectionné plutôt des études qui allaient dans leur sens et qui sont pas vraiment un consensus de la littérature. Alors, je vous donne un... Puis l'autre chose, c'est la mise en contexte du risque qui est augmenté. Alors, une des grandes études qui a ébranlé un peu les gens il y a 2-3 ans dans le Lancet montre une augmentation du risque absolu quand vous passez de 0 verre par semaine à 2 verres par semaine. Mais je vais vous donner les chiffres absolus.
Okay.
Vous passez de 0,914% à 0,977%. Quand vous passez de 1 verre par jour à tous les jours à 2 verres, pardon, de 0 alcool à 2 verres par jour. Alors, 0,91 à 0,977. Alors, ça, c'est un risque qui est augmenté absolu. Vous pouvez le quantifier en pourcentage. Ça donne quelques points de pourcentage, mais ça reste un risque extrêmement faible. Alors, c'est pour ça que le consensus, si vous regardez les recommandations américaines du NIH, c'est 1 verre par jour pour les femmes, 2 verres par jour pour les hommes. Ça n'a pas changé. Si vous regardez le site de Harvard, qui est un des mieux faits pour l'alcool et le cœur, on continue de dire 1 à 2 verres pour une femme, 2 verres pour un homme. Celle des alcools, comme vous savez, c'est à peu près 10 verres pour une femme, puis 15 verres pour un homme. On pourrait aller un petit peu plus bas que ça, là, à 1 verre pour une femme et 2 verres pour un homme, puis ça respecterait pas mal le consensus scientifique. Mais 2 verres par semaine, ça, la littérature ne montre pas ça, je suis désolé.
Faites-vous une différence entre un verre de vin et un verre de bière et un verre d'alcool?
Oui, et il y a des grandes études là-dessus qui ont comparé là, une grande étude avec des centaines de milliers de personnes. Ils ont été capables, parce qu'il y avait tellement de monde, de regarder vin, bière et alcool, les spiritueux. Et quand vous regardez globalement, l'alcool a une petite protection cardiovasculaire, si on parle du cœur, par exemple, petite protection cardiovasculaire en général, tous les alcools confondus. Mais si vous regardez le vin rouge, il y a une nette différence qui est vraiment plus marquée. Et cette étude-là est particulièrement bien faite parce qu'ils ont exclu ce qu'on appelle le biais des abstinents. Ça, vous allez voir ça beaucoup dans la littérature. C'est sûr que si vous comparez des petits buveurs à des non-buveurs, ben les gens vont dire, ceux qui aiment pas du tout l'alcool, là, ils vont dire oui, mais les non-buveurs, c'est des anciens malades, c'est des malades actuels, c'est des anciens alcooliques, donc faut pas les inclure. Alors, c'est bien correct. Alors, il y a beaucoup d'études qui essayent d'éliminer ce biais-là. Par exemple, une des études, elle a divisé les consommateurs d'alcool en quintiles, c'est-à-dire ils ont divisé par tranches de 5 tranches, si on veut, alors les petits buveurs moyens, élevés, etc. Ils ont comparé les petits buveurs avec les plus grands buveurs, puis on voit qu'avec les spiritueux, il n'y a pas beaucoup de protection. En fait, il n'y en a pas, puis si vous augmentez là, rapidement, là, vous allez avoir des effets néfastes d'alcool. Mais pour le vin, la protection est vraiment forte. En fait, c'est probablement le vin qui... joue là, dans les grandes études pour montrer une baisse du risque. Et puis par rapport au risque, alors pour répondre à votre question, oui, le vin a une différence, et le vin rouge en particulier, parce que vous avez, par la fermentation de la peau du raisin, des composés de toutes sortes qu'on appelle phénoliques, les flavonoïdes, les non-flavonoïdes, vous avez le resveratrol. Et vous avez des processus, ça va créer sur le plan physiologique un effet, si on veut, anticoagulant. Alors, ça diminue l'action des plaquettes qui bloquent les artères un petit peu là quand on se coupe, et certains facteurs de coagulation, c'est aussi anti-inflammatoire. Alors, ça augmente un peu le HDL. Donc, il y a des raisons physiologiques derrière ça là, qui font du sens. Et si vous allez encore une fois sur le site de Harvard, ils vont vous dire qu'il y a une centaine d'études bien faites de grande envergure qui ont démontré une protection cardiovasculaire. Puis quand on dit cardiovasculaire, c'est l'infarctus du myocarde que ça protège, la crise cardiaque et la mort subite. Et c'est même dans les études que le CCDUS cite, comme quoi c'est un mythe. Quand on va lire l'article, ben c'est écrit en toutes lettres qu'il y a une baisse du risque de maladie ischémique. Ça, c'est l'infarctus du myocarde.
Mais docteur Junot, j'allais vous, quand j'ai parlé avec les gens du centre, ils m'ont dit que ce qu'on a appelé le paradoxe français, le French paradox, que les récentes études venaient démolir ça, que ça tenait pas la route et que les qualités ou les bénéfices du vin rouge, c'était comme une vieille théorie.
Je sais qu'ils disent ça. Puis moi, le paradoxe français, je ne suis pas un amateur du paradoxe français. Je pense qu'il y a bien d'autres choses qui expliquent la plus faible mortalité cardiovasculaire en France que le vin. Là. Il y a l'alimentation, là. La quantité de viande, la quantité de sucrerie, etc., là, qui est moins grande en France. Donc, moi, le paradoxe français, ça ne m'a jamais impressionné. Par contre, l'effet du vin rouge, vieille théorie, ben allez voir Harvard, allez voir un paquet de publications, allez voir les mécanismes physiologiques sur les composés, les molécules là, qui sont protectrices dans le vin. Comme je vous dis, il y a des tonnes d'études à cet effet-là. On peut ne pas être d'accord, hein. C'est pas une science exacte, l'épidémiologie, hein. Et surtout l'alimentation. Vous pouvez pas faire une étude randomisée comme avec les pharma, là. Prendre 20 000 personnes, 10 000 prennent une pilule, 10 000 prennent un placebo, puis on compte les décès. Là, ben il faut regarder par questionnaire la consommation d'alcool des gens, puis essayer de contrôler le mieux possible pour tout le reste. Le niveau d'éducation, l'activité physique, l'alimentation, évidemment le tabagisme. Et puis là, on arrive à les grands experts, là, c'est les gens de Harvard, ils ont fait des grandes cohortes. Et eux réussissent avec tous ces contrôles-là à isoler, si on veut, le mieux qu'ils peuvent l'effet de l'alcool. Et on arrive aux conclusions qu'il y a la courbangie, il y a une petite protection qui est beaucoup à cause de l'effet protecteur cardiovasculaire.
Mais il y a quand même, je dirais que ça prend une tournure souvent, vous l'avez dit un peu au début, là, idéologique. Je voyais oui. Là, dans les jours qui ont suivi, des gens de santé publique qui disaient il faudrait que les fondations des hôpitaux, là, par oui. exemple l'Institut de cardiologie, Maisonneuve-Rosemont, se oui. dissocient d'événements parrainés comme Montréal Passion 20 ou 2020, puis bon. Puis parce que oui. c'est un mauvais signal.
Écoutez, moi, là, ça fait 36-37 ans que je pratique, puis quand je suis revenu de Stanford de mon entraînement, j'avais fait une entrevue, on est en 86, là. J'avais fait une entrevue sur ça, l'alcool, la protection myocardique. Et puis, j'avais eu un appel d'un ami de santé publique qui m'avait dit, « Écoute, Martin, j'aimerais ça que tu dises plus ça. » Parce que nous, on se tue à dire aux gens qu'il faut pas boire pour éviter les accidents de la route, la violence conjugale, les chutes chez la personne âgée, etc. Puis, ça fait un message bien mauvais de dire que c'est bon de boire. Alors, j'avais dit, écoutez, là, moi, je dis pas que c'est bon de boire. J'ai dit que si on boit en petite quantité, en quantité modérée, c'est pas mauvais pour la santé. Puis, il y a même une petite protection contre les infarctus. Et puis, moi, il m'avait dit, oui, mais on veut pas ce message-là. Là. Ça donne comme un message aux gens, buvez. Mais moi, je pense que les gens sont assez intelligents pour doser leur risque. Et si vous avez un risque élevé d'infarctus dans votre famille, ça peut être intéressant de boire un petit peu de vin. Je dis pas aux gens qui boivent pas de se mettre à boire, mais je pense qu'il faut donner l'information juste aux gens. Puis si votre risque le plus élevé, vous, c'est le cancer du sein ou le cancer digestif, parce que vos deux parents sont morts d'un cancer de l'estomac, ben peut-être faire attention à l'alcool. Mais c'est un message qui est complexe. Puis quand on parle en termes de santé publique, ben on veut diminuer l'alcool. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein. On banalise l'alcool au Québec, puis on boit trop. Je passe mon temps à le dire à mes patients de pas boire une bouteille de vin avec leur conjoint tous les soirs, là. Mais c'est un, moi, je pense qu'il faut dire les vraies choses aux gens, donner les vrais risques, puis dire les faits scientifiques. Les gens prendront leurs décisions, mais c'est pas un message que la santé publique aime, parce qu'il est compliqué. Et je les comprends. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas une recommandation simple. Et il y a toute une mouvance au Canada anglais, surtout en Colombie-Britannique. Il y a un nommé Stockwell là, qui est très anti-alcool depuis toujours. Il y en a en Australie, il y en a un peu partout dans le monde. Et ces gens-là sont très actifs, je dirais, là, politiquement. Et pour moi, ce rapport-là, c'est ce groupe-là qui a fait passer son point de vue. Mais pour moi, c'est pas de la science.
Docteur Junot, merci d'avoir pris le temps avec nous. Bonne journée.
Merci.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Alors, c'était dans l'air depuis la semaine passée, ça a été confirmé hier. Donc, 6 nouveaux épisodes de La Petite Vie 30 ans plus tard. Claude Meunier est avec nous. Claude, bonjour.
Bonjour, Paul. Content d'être ici.
Ben oui.
Ben oui.
Content de te voir. Tu reprends la run de lait que tu n'avais pas...
Ben, c'est une petite run.
Oui.
C'est une petite run. C'est une runette. Parce qu'on ne revient pas pour tester puis revenir. Là. On ne revient pas. On revient 6 épisodes, mais c'est tout. Là.
Quand on t'a proposé ça puis que tu t'es mis à réfléchir, t'as-tu hésité longtemps ou c'était pas mal?
Oui, j'ai hésité beaucoup. Tu sais... Faire une histoire courte, là, on m'a dit, tu devrais faire que c'est Monique Lamoureux qui est chez Avanti, qui a eu l'idée, qui m'a dit un soir de pandémie où il y avait des grosses cotes d'écoute, tu sais, on avait 900 quelques mille un soir dans la pandémie. Elle dit, Claude, faut faire quelque chose. Le monde aime ça, il t'aime. Faut que tu fasses une espèce de chose de reconnaissance au monde. J'ai dit, oui, mais je suis pas capable d'écrire La Petite Vie parce que c'est fait, mais d'autre part, je peux pas reprendre des comédiens pour jouer du monde à 30 ans. Ils ont 65, 70 ans, 60. Puis là, 2-3 jours plus tard, j'ai eu l'idée des faire vieillir de 30 ans. Puis là, toutes les idées sont arrivées. Parce que j'avais plus d'idées à refaire toujours la même chose avec eux autres. Je n'avais plus vraiment. C'est pour ça qu'on a arrêté. Puis là, en les vieillissant de 30 ans, il y a plein d'idées qui sont arrivées parce que là, ils sont tous ailleurs dans la vie, même s'ils sont encore dans la vie.
Est-ce qu'ils ont changé ou sont ailleurs, mais toujours avec leur trait de caractère qu'on connaît?
Paul, as-tu changé depuis 30 ans, toi?
Un peu.
C'est ça. On peut changer. Mais il y a des choses qui se passent comme Rénal est à la retraite, évidemment. Il fait de l'angoisse, des problèmes de santé. Sa femme s'est mise à faire des annonces de produits hygiéniques. Thérèse est beaucoup dans le domaine astral. Alors, ils se promènent, ils sont ailleurs, ils ont des nouvelles. Puis, la grosse affaire, c'est que maman n'est plus là. Maman est absente. On le sait tous.
On le sait tous. Puis, tu sais, je sais que. Mais tu as dû y penser aussi quand on a parlé de ça, parce que, bon, on sait ce qui arrive avec Serge Thériault. Puis, on comprend qu'il va pas bien, puis qu'il ne reprendra pas du service. Puis,
Non, malheureusement, il ne peut pas reprendre du service. Puis, j'y ai parlé la semaine passée encore, puis il peut pas reprendre service, puis je veux pas parler de Serge parce que ça lui appartient, tout ça. Pas parce que je veux pas en parler, mais on sait tous à peu près ce qui se passe. Mais est-ce qu'on empêche une équipe de jouer au hockey parce qu'une de ses vedettes est au rencard? Puis...
Est-ce que tu lui as dit que tu refaisais ça?
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'il dit de ça?
Au départ, il était surpris, puis il comprenait, puis il est pas capable de venir le faire dans le moment.
Penses-tu qu'il aurait aimé le faire?
Ah oui. Je pense bien que oui. Il me l'a pas dit clairement comme ça, mais oui, sûrement. Puis moi, quand j'ai laissé le téléphone après avoir parlé à Serge, j'étais vraiment triste. J'étais triste parce que j'aime beaucoup Serge, puis parce qu'il aurait été bon, c'est sûr. Mais comme je dis, est-ce qu'on va priver tout le reste de la gang? Puis quand je suis arrivé avec le projet, c'était évident que Serge était dedans au départ, puis ça a pas fonctionné qu'il soit dedans. Puis bon. Puis moi, je me suis dit, est-ce que je nous prive tous d'avoir du fun? Puis de faire ça, c'est un coup de cœur, puis très fort, puis tout le monde avait le goût, parce que j'ai appelé tout le monde un après l'autre, puis là, on a fait des lectures, parce qu'on n'a pas dit oui, OK, on le fait. On a dit oui, on va essayer de le faire, puis là, on a lu des textes, puis c'était là, la famille était là, puis on a ri, tu sais, vraiment beaucoup, là. Puis là, le monde est enthousiaste. Puis on a tout fait les lectures toutes les lectures de tous les textes. Puis on est là.
Mais quand j'écoute le samedi, là, je suis toujours frappé de voir l'avertissement qui est placé. On va l'écouter juste un extrait, puis les gens vont évidemment comprendre ça. Là.
Ce programme est présenté tel qu'il a été créé et peut contenir des représentations culturelles d'époque.
C'est une représentation culturelle d'époque.
Effectivement, c'est assez époque. Je veux dire, Timmy, c'est presque le début de l'Homo sapiens. Mais c'est vrai que c'est une représentation. Il y a beaucoup d'affaires de l'époque. On appelait des gens d'une manière à l'époque qu'on ne peut plus faire maintenant.
Non.
Ça, c'est sûr. Mais on n'était pas des provocateurs au niveau... On était plutôt des un miroir déformant, puis c'était assez drôle. On n'a jamais attaqué. On n'était pas des RBO, mettons.
Non.
On n'était pas là pendant tout. Nous autres, des fois, bon, à l'époque, les gens...
Mais c'était une caricature aussi, c'était des personnages.
Oui, c'est du burlesque absurde, puis il y a des caricatures, des bouts, puis effectivement...
Mais dans l'écriture des nouveaux épisodes, des six...
Je t'ai pas retenu nulle part. J'ai six sujets, en gros, là. Tu sais, il y a des histoires secondaires, mais on suit les personnages, puis à un moment donné, on parle de transgenre. J'ai voulu en parler, puis on parle de transgenre, puis on parle d'affaires comme ça, mais je pense que ça va passer très, très bien. Il y a des façons de
mais parler. Mais là, attends un peu, là. Si tu parles de transgenre, je sais pas avec qui, quel personnage, mais là, tu t'imagines qu'il y en a qui ont un malaise, ou qui font semblant d'être confortables, ou...
C'est ce qu'on va voir. Ou qui font semblant d'être confortables.
Oui, c'est ça que j'ai dit.
Ça se peut très bien.
OK.
Oui. Puis c'est difficile à parler de ça. Hein. Faut en parler de très sur le bout des lèvres. Mais mon but, c'était pas de parler des transgenres. C'est qu'il y a des transgenres aujourd'hui. Il y a des... c'est arrivé par la bande, cette idée-là. Tu me suis pas dit, c'est pas un épisode sur les transgenres en passant. C'est qu'il y en a un qui rentre. Les deux. Les deux rentrent. Alors, comment appeler ça? Comment dire ça?
Mais là, tu dis, je me retiens, je me suis pas retenu. Mais en même temps, tu as dû dire, OK, je vois-tu vraiment là? Ça vaut-tu la peine? Ou,
Non, mais ça, c'est... Non, c'est pas une... Comme je dis, c'est arrivé. Il y a des sujets un peu... un peu délicats qui sont arrivés pendant l'écriture, mais très peu, en fait. Ça se passe plus ailleurs. La petite vie, ça se passe plus ailleurs. Mais, tu sais, on parlait hier de Michel Côté qui faisait Jean-Loup. Jean-Loup, les gens disaient que c'était une caricature de gay. Moi, je dis que c'était gay, puis c'était une caricature surtout de quelqu'un de susceptible. Parce que le personnage qui m'avait inspiré était hyper susceptible et était maniéré. Mais qu'est-ce que tu veux? On l'aimait tous, Jean-Loup. Hein? On l'aimait tous, tu sais.
Il sera pas là parce que Michel est évidemment malade.
Exactement. Ouais.
Mais tu sais, c'est comme, je me souviens à l'époque, j'avais entendu des commentaires Rénal, tu sais, espèce de, tu sais, le gérant de caisse populaire ou de banque, là.
Ouais.
Tu sais, il y en a qui étaient outrés en disant, voyons donc, voyons si on est de même.
Ben oui, vous êtes de même.
Ben.
non, je pense pas. Et une chose qui est drôle, c'est que le gérant de la caisse à l'époque, à Radio-Canada, la caisse de
Radio-Canada,
je le savais pas, il s'appelait Ronald Paris et non pas Rénal. Puis, à un moment donné, il m'a dit, ça commence à être moins drôle d'avoir pris mon nom. Je dis, j'ai pas pris ton nom. Je m'appelle Ronald Paris, Claude, en passant. Moi, j'étais pas membre à ce caisse-là, mais je le croisais des fois parce qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait à Radio-Canada. Fait que je savais pas, moi, qu'il s'appelait Ronald Paris. Puis ça, c'est vraiment un addon. Un gérant de caisse qui s'appelait Ronald Paris. Alors, je le jure sur mes enfants, je savais pas que c'était son nom. Hein. Peut-être je l'ai vu, je m'en suis pas rappelé, mais... Ouais. Mais... écoute, tous les personnages sont des gens que j'ai connus ou des mix de gens ou des morceaux de gens qui s'accolent ensemble sans que je le veuille vraiment. Là, mais c'est la drôlerie qu'on cherche. Hein.
Mais je dirais que tu étais précurseur avec Timé, la préoccupation des ordures. Là, je veux dire, à l'époque, c'était pas aussi présent dans nos vies que ça l'est. Là.
Mais dans la vie de mon père, ça l'était.
Oui, je comprends. Mais
Oui, j'avoue que c'était assez précurseur à ce niveau-là.
Timé, ton père était précurseur.
Il était très précurseur, ouais. Il doit s'occuper de ça en haut, là. De faire les vidanges au ciel. Ouais.
Et donc, tout le monde a accepté. Il n'y a personne qui a dit pas certain ou.
C'est ça qui était vraiment. Ils ont tous sauté d'emblée. Il y avait tout le goût. Puis j'ai dit, écoutez, avant, on fait une lecture. On peut pas. On va lire des textes, on va voir ce que ça donne. Puis. Donc, quand on a fait une lecture, ça a pris 2 minutes, puis on était tous ensemble, comme à l'époque, tu sais. Mais. Ce qui était. Ils ont dit oui parce qu'on est rendu ailleurs. On est rendu 30 ans.
Mais là, tu sais, je vais te poser une question, pas certain que tu vas être content, mais. Tu te mets de la pression, puis peut-être pas consciemment, parce que t'aimes ça écrire, puis t'aimes ça créer, mais là, tu sais que à la veille de, là, la barre va être...
Écoute, comme, Paul, t'as complètement raison. Je m'en rends jamais compte, je me fais toujours prendre. C'est sûr, hier soir, j'ai réalisé, mon Dieu, avoir tout ce qui s'est dit hier sur la petite vie, je me suis dit, my God, pourquoi je fais ça? Mais en même temps, j'ai le goût de le faire. Puis quand j'écris, moi, je suis bien confiant, je suis bien en confiance, puis j'ai vraiment du fun à faire ça. Écoute, j'ai pas besoin de faire ça dans ma vie actuellement. Là. Je l'ai fait parce que ça me tente, puis parce que les comédiens ont répondu tellement positivement que j'ai eu le goût de le faire. Si les comédiens avaient été so-so, puis je te jure, si à la lecture, les gens avaient pas été bons de même, puis on n'avait pas ri comme ça, j'aurais abandonné. J'ai pas le goût de manger une claque. J'en ai eu des claques, moi, mais j'en voulais pas une autre, là, rendu à mon âge, puis où je suis rendu, j'espère je mangerai pas une autre. J'ai entendu des gens dire, on peut pas faire ça si Serge est pas là, on insulte Serge, là, à un moment donné. C'est sûr qu'il va y avoir des... Parce qu'aujourd'hui, c'est un... moi, je suis très sensible à la critique, et très sensible. Et je suis un gars sensible, Paul, je t'en ai-tu parlé?
Ça, je le sais.
Mais moi, je fais ça pour qu'on ait du fun, puis pour me faire du fun, puis pour retrouver ma gang. Moi, j'étais un gars de gang. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit des gros projets parce que j'étais un gars de gang. J'écris pas des monologues. Puis j'aime ma gang, puis on s'aime toutes, puis on pense qu'on va faire rire tout le monde. C'est simple.
Mais est-ce que
ça.
C'est pour ça que t'as pas écrit depuis longtemps, parce que tu t'es fait écorcher, puis que, comme tu le dis, t'es sensible, puis que ça t'a quoi, peut-être, je sais pas, moi, retenu un peu?
Oui, sûrement. Mais il y a eu des projets qui ont bien marché quand même. Le Timmy Show, ça allait bien, puis tout ça. Mais puis il y a eu mes pièces jouent encore, puis mes affaires jouent. Puis c'est pas tellement ça, c'est que j'avais pas de gang. Moi, j'ai toujours écrit pour du monde, puis en groupe, puis j'ai pas refait de groupe. Puis c'est drôle, j'ai fréquenté des jeunes acteurs. Je pensais de partir quelque chose avec des jeunes acteurs, d'écrire quelque chose. Puis non, mais... J'ai toujours fait surpense à ma carrière, à ce que j'ai fait. J'ai toujours été avec du monde. J'ai jamais fait des choses seul. Puis j'aime les gangs. Puis là, j'ai retrouvé ma gang. Je me suis dit, coudonc, c'est là-dedans que je suis le meilleur. Pourquoi pas? J'y vais.
Mais comment t'expliques le succès? Écoute, des jeunes là, qui n'ont pas connu ça à l'époque, là,
ouais.
Qui regardent La Petite Vie puis qui ont du fun à regarder ces personnages-là.
J'avoue que c'était un petit peu...
On va prendre une thèse universitaire, là, peut-être, là, mais...
Tu sais, il y a vraiment... C'est intemporel. Ça part de la famille. La famille, ça change pas tant que ça. Les rapports familiaux, comme dans les voisins, la com, les relations personnelles, les interrelations, même si les modes changent, les choses, la technologie change, les gens sont un peu à même place, tu sais, sur 30 ans, 20 ans. C'est ça que les voisins perdurent, peut-être, puis La Petite Vie perdure. Mais il y a une chose, c'est la... Je le pense vraiment, je sais que les textes sont drôles, là. Je suis content de mes textes, je pense qu'ils sont bons. Mais les acteurs de La Petite Vie, là, c'est quelque chose. C'est des pointures. C'est un jeu d'équipe hallucinant. Puis je me rappelle à l'époque, quand d'autres comédiens venaient jouer avec nous autres, c'était toujours le temps d'acclimatation. Ça va, c'est pas que ça va vite, mais c'est un niveau qu'il faut jouer avec une sorte d'innocence et en même temps une précision. Mais là, je suis sérieux en parlant de ça, mais ils sont drôles, les comédiens de La Petite Vie, ils sont bons.
Mais t'aurais pas pu tourner ça, tu sais, par séquence dans un studio avec différents plans, puis...
Non.
C'est
du théâtre.
Ben oui, c'est du burlesque.
C'est comme le Splendide, quelqu'un a dit ça, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est une gang de monde sur scène, puis on joue pour le monde. C'est un show pour le monde. Le rire, c'est pour le monde.
Quand est-ce qu'on voit ça, là?
23, 24, je sais pas trop. Ils ne l'ont pas dit. Je sais pas. D'après moi, ça va être à l'automne ou dans le temps de Noël. Quelque chose de même.
On va écouter les vieux épisodes en attendant.
Ben oui.
Claude, merci d'être venu.
OK.
Vous écoutez Balado du dimanche. Une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à L'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route, avec Benoît Charrette.
C'est 23.